Ondes de santé, les projets santé du Nord des Hautes-Alpes. Bienvenue dans Ondes de santé. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la compréhension de la santé et de son système à travers un concept, celui de la littératie. La littératie, c'est la capacité à accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé. S'intéresser à la littératie, c'est s'intéresser à l'accessibilité de la santé et de son système. Un sujet dont s'est emparé la CPTS, nous en parlons aujourd'hui dans Ondes de santé, avec Célia Grimal, chargée de mission à la CPTS Briançonnet-Écrin, et Jean-Christophe Villiaud-Danger, kinésithérapeute en libéral et membre du conseil d'administration de la CPTS. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur ce concept? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de littératie en santé?
Alors la littératie en santé, elle a émergé dans les années 70 en Amérique du Nord et après elle s'est développée au Canada et ce n'est que dans les années 90 que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'a généralisée. Donc en France, c'est un concept assez récent qui, comme tu l'as dit, se base sur quatre jalons. En fait, il y a l'information en santé et elle transite, elle passe par quatre grands piliers. Donc comment on accède à l'information en santé, comment on la comprend, comment on l'évalue et comment on l'applique. Du coup, c'est un concept transversal qui permet à la population et aux professionnels de santé de naviguer dans le système de santé actuel et comprendre sa propre santé.
Donc c'est comprendre les termes, mais aussi des concepts de santé?
C'est comprendre sa maladie. Les conséquences de sa maladie que ça peut avoir, c'est comprendre comment fonctionne notre système de santé en termes de prise en charge, de prise en soins, les spécialistes, pour ensuite mieux comprendre ce qui nous arrive et donc être plus en capacité d'accéder à la guérison ou de ne pas être malade tout simplement.
D'accord. Et quel est l'état de la littératie en France? On en parle, mais si on s'y intéresse, c'est qu'il y a sûrement un constat.
Eh bien, il y a des études qui ont été faites en France et on s'aperçoit qu'il y a 44% des adultes qui ont des difficultés pour accéder, comprendre, évaluer, utiliser l'information utile pour sa santé.
Et quel impact ça a? Quelles conséquences?
Ça a un impact direct sur la santé globale de la population, puisque si on est perdu dans le système de santé, on ne comprend pas sa maladie, on se soigne moins bien. Il y a moins d'observance, les médicaments sont moins bien pris, etc.
Ça, c'est un constat, ça a été observé vraiment
La corrélation.
Oui.
Oui.
Oui, d'accord.
On a constaté aussi que le niveau de littératie en santé influence certains déterminants en santé, qui sont l'utilisation des services de santé ou les comportements en santé, notamment dans le domaine de la prévention.
Concrètement, par exemple, quand on a un niveau de connaissance, alors moi je vais plutôt parler de niveau de connaissance en santé.
Plutôt que de littératie.
Qui veut dire la même chose. Quand on a un haut niveau de connaissance, on est davantage satisfait du système de santé. Donc ça veut dire qu'on en tire de meilleurs bénéfices. On consulte beaucoup moins le médecin traitant. Quand on a un haut niveau de connaissance, on y va en moyenne une fois par an. Quand on a un faible niveau de connaissance, on y va en moyenne une fois par mois. Ça, ce sont au niveau statistique. Et puis au niveau de la compréhension de l'implication individuelle, là aujourd'hui, on parle vraiment d'une implication individuelle dans la santé. Ceux qui ont un haut niveau de littératie l'ont bien compris. Et quand on les interroge sur la sédentarité, ils sont à 20% sédentaires. Donc, c'est-à-dire à 80% actifs. Proactif au niveau activité physique, qui est, on le sait aujourd'hui, qui est un des premiers agents de prévention pour de très nombreuses maladies. Et à l'inverse, quand on a un faible niveau de connaissance, les chiffres sont à peu près les mêmes, mais inversés, c'est-à-dire qu'on est à 80% sédentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que la sédentarité était lui aussi un des premiers facteurs péjoratifs, donc d'aggravation ou de développement de certaines maladies. Si je peux revenir sur la définition pour bien la comprendre, moi j'aime bien le mot alphabétisation.
En termes de santé, alors.
À la place de littératie. Donc on pourrait faire cette espèce d'association un peu curieuse, mais d'alphabétisation de la santé. C'est-à-dire, on maîtrise l'alphabet de la santé, c'est-à-dire les différents éléments, les lettres. On a compris les agencements des lettres, c'est-à-dire les agencements, les associations des différentes disciplines de santé. Et on les transforme en mots qu'on utilise à bon escient, c'est-à-dire qu'on utilise dans des situations adaptées. Donc si on le traduit en santé, c'est-à-dire qu'on sait vers quel professionnel se tourner, on comprend un petit peu les symptômes que l'on a, et au bout du compte, on sait agir dans le bon sens, on sait, comme l'a dit Célia tout à l'heure, s'adresser à la bonne personne, mais surtout au bon moment. Donc voilà, donc, c'est-à-dire on a une certaine autonomie, une autonomie vis-à-vis de sa santé, c'est-à-dire qu'on sait quoi faire au bon moment. Et on n'abuse pas à la fois du système de santé, mais surtout on sait bien le solliciter. Et pour compléter aussi la définition de littératie, en bout de chaîne, ce manque de connaissances, ce mésusage de la santé conduit à une augmentation de la morbidité, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence des maladies, de leur aggravation, et en bout de chaîne, au bout du bout, c'est la mortalité. C'est la mortalité, c'est-à-dire ça fait des morts. Clairement, on va le dire directement, la courbe de mortalité augmente avec au départ une mauvaise information. Vous avez vu, l'association est quand même assez presque choquante.
Oui, elle est forte. Mais cela signifie que lorsqu'on parle de littératie donc, ou d'alphabétisation, en utilisant ce terme, Jean-Christophe, en tout cas de meilleure connaissance de la santé et du système de santé. Finalement, on parle aussi donc d'autonomisation, mais en prévention, en fait. Parce que lorsque tu dis qu'il y a une corrélation entre la santé des personnes et leur littératie, ça signifie que finalement, mieux connaître tout cela permet finalement d'être même moins malade au départ. Et donc, d'avoir aussi dans son quotidien des habitudes qui aide à entretenir sa santé ?
C'est tout à fait ça. Le premier niveau de santé, c'est un comportement individuel, les actions de santé. On le sait pourtant avec Célia, nous sommes aussi dans la prévention et les messages de prévention sont abondants, mais le tout premier message, c'est le comportement quotidien, le sommeil, l'activité physique, la nutrition. Voilà, c'est les trois piliers de la santé et encore trop de citoyens les ignorent.
Dans ce cas-là, la littératie concerne qui ? Alors déjà, ça ne concerne pas seulement des patients, mais tu le disais, des citoyens.
C'est exactement ça, oui. C'est toute la population.
Et du côté des professionnels de santé, alors, qui est-ce que ça concerne ? Pas seulement les spécialistes qui vont s'occuper de patients dans des pathologies fortes, chroniques ?
Ah non, tous les professionnels sont concernés et devraient s'attacher à avoir des pratiques pro-littératie au quotidien dans leur cabinet. Donc c'est utiliser des mots simples, avoir des schémas, des dessins, parfois certaines mettent des pictos ou des vignettes sur les ordonnances. Voilà, c'est vraiment, il y a des petits outils qu'on peut appliquer à l'échelle individuelle au niveau du cabinet qui favorisent une augmentation du niveau en littératie des patients et des patientes qui viennent consulter.
On va revenir justement sur les solutions qui peuvent être mises en place. Mais pour l'instant, restons déjà dans cette démarche de prise de conscience. Ça en est où aujourd'hui ? Puisque le terme de littératie, il n'est pas très connu. Il ne parle même pas forcément beaucoup. On parlait des professionnels de santé, on peut commencer par cela ?
C'est difficile de parler pour eux, Jean-Christophe, peut-être que...
Oui, c'est difficile parce que, comme on l'a un peu suggéré, c'est nouveau. C'est à la fois ancien, c'est aussi ça pour beaucoup de phénomènes sociaux, c'est très ancien à certains endroits du monde et très récent dans d'autres endroits. Donc en France et en Europe en particulier, cette notion démarre tout juste. Et disons que c'est une prise de conscience un peu, quelque peu, comment dire, dramatique, puisque c'est la Covid. C'est la Covid-19 qui a fait prendre conscience de cette espèce de torrent de tsunami, d'avalanche de désinformation au niveau de la santé et qui surtout a fait prendre conscience à ce moment-là des dégâts que cela provoquait. Parce que la désinformation a toujours existé. On rappelle, juste pour une petite anecdote, quand les vaccins ont été inventés, il y a déjà maintenant fort longtemps, tout est relatif, mais il y a quand même quelques dizaines d'années, immédiatement, les anti-vaccins se sont manifestés, c'est-à-dire face à une nouveauté qui apportait des bénéfices très importants aux populations, la défiance a poussé en même temps. Et d'une manière générale, la science s'accompagne systématiquement d'un contre-feu. Et depuis 2000 ans, depuis Aristote, c'est un peu la même chose. Donc ça veut dire que là, c'est une prise de conscience que cette fois-ci, les anti-santé, prenaient vraiment trop le dessus et que les dégâts commençaient à être importants, puisque c'est là qu'on a vu des morts qui ont été directement liées à de la désinformation suite à la Covid. Donc c'est nouveau, oui et non. Disons que on peut plutôt parler de prise de conscience, d'un certain niveau de prise de conscience qui nous pousse maintenant à agir.
Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a certains pros de santé qui appliquent la littératie en santé sans le savoir. C'est un peu faire de la prose sans le savoir.
C'est-à-dire, ouais.
Il y a certains outils qu'utilisent les pros de santé dans leur pratique, comme l'éducation thérapeutique, l'entretien motivationnel, tout ce qui est éducation thérapeutique patient, je l'ai déjà dit, qui permettent l'interprétariat, la médiation, qui sont des outils au service de la littératie en santé.
Dans la formation des professionnels de santé, il n'y a pas un domaine lié à la littératie.
En formation initiale, je ne connais pas les cursus des professionnels de santé. En tout cas, on ne l'a jamais fait remonter.
A priori, non, mais on n'est pas sûr à vérifier.
Voilà.
Non, mais les notions de littératie croisent l'éducation thérapeutique et ce sont des notions qui sont parfaitement communes dans l'éducation thérapeutique. Le professionnel de santé doit se mettre, c'est le principe fondamental, doit se mettre au niveau du patient. Et il y a cette espèce de culture de connaissance et d'autonomisation qui existe déjà parfaitement dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Seulement, l'éducation thérapeutique doit s'élargir, mais pour l'instant, elle est quand même cantonnée, elle est quand même réservée à des domaines particuliers qui sont les maladies chroniques. Alors qu'en littératie, on parle de l'ensemble de la santé. Mmh. Donc les outils de l'éducation thérapeutique sont tout à fait les mêmes dans la littératie.
Et du côté des patients ou des citoyens, en tout cas, est-ce qu'il y a une prise de conscience observée ou aujourd'hui, vous en entendez parler, vous ?
Du côté de la population, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le lien entre niveau de littératie et inégalité sociale de santé a été démontré. Ça veut dire que les personnes qui ont certaines inégalités sociales telles que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, issues de l'immigration, qui maîtrisent peu la langue française ou peu la culture, ont un risque plus élevé d'avoir un faible niveau de littératie en santé.
Mais pour l'instant, ça n'implique pas forcément une prise de conscience de la population elle-même.
Oui, sauf si on revient à la source de révélation un peu de ces difficultés, la Covid-19, on peut parler d'esprit critique, c'est-à-dire de savoir faire la différence entre un soin qui peut conduire à une amélioration d'un soin qui ne conduira pas à une amélioration ou qui conduira à une fausse idée de l'amélioration. Si je me fais comprendre sur ce que peut être la santé et quand on est en difficulté. Donc c'est pour le dire, il y a une offre, il y a un marché aujourd'hui de thérapie non conventionnelle qui promet beaucoup, mais qui garantit peu. C'est-à-dire, au bout du compte, il n'y a pas de résultat à attendre et il y a une offre qui est quand même assez présente sur le marché de la santé. C'est ça aussi la littératie, c'est permettre aux citoyens de différencier le soin qui permettra de s'améliorer au niveau de la santé du soin qui ne leur permettra pas de s'améliorer. Statistiquement, il n'y aura pas d'une probabilité d'amélioration qui sera beaucoup plus proche de zéro, et par contre avec un coût financier, un coût social ou qui va même jusqu'à la dérive sectaire, qui peut, lui, leur coûter très cher. Donc il y a aussi cette prise de conscience-là. La Covid-19 a mis en avant des thérapies qui étaient farfelues, qui n'étaient pas du tout scientifiques, et qui, surtout, ce n'est pas la question que ce soit scientifique ou pas, mais qui ne conduisent pas à des résultats. Donc l'idée de la littératie, c'est de mettre en garde et de donner de la capacité donc, aux citoyens de faire ces choix-là Et donc, on revient à une notion particulière qui s'appelle l'esprit critique.
Et j'ajouterais également que cet esprit critique, cette prise de recul, elle doit aussi être... on doit mettre ces lunettes-là en tant que citoyen, citoyenne, lorsqu'on regarde les médias ou qu'on lit la presse. Enfin, c'est toujours quelque chose qu'il faut... une prise de recul, un pas de côté, avant de se plonger dans une thérapie ou foncer chez le médecin, etc.
Donc là, on a parlé finalement de certains freins à une meilleure connaissance, on en parlait avant, qui peuvent être... en l'occurrence, on parlait des médias, ou en tout cas un manque d'esprit critique, aussi l'inégalité sociale peut-être, d'éducation aussi à ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres freins à la littératie qui sont observés ?
Là, on pourrait parler aussi du niveau d'information.
C'est-à-dire ?
Le niveau d'information, alors c'est un mot que tout le monde connaît, et pourtant aujourd'hui c'est un peu, en quelque sorte, un enjeu social majeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être informé. On est surinformé, on a un accès à l'information qui est totalement ouvert, une facilité déconcertante pour ceux qui ne l'ont pas connue, comme moi, où il fallait aller dans les bibliothèques pour avoir des renseignements. Maintenant, on ouvre un écran et on a accès absolument à tout. Donc on a l'impression d'être informé. Et chaque citoyen a l'impression d'avoir la bonne information. C'est là qu'intervient l'esprit critique, c'est-à-dire de savoir est-ce que cette information est valable ou pas, est-ce qu'elle se rapproche de la vérité ou est-ce qu'elle s'en éloigne. Et cet enjeu donc dépasse littéralement le milieu de la santé. Il y a des enjeux politiques derrière ça. Aujourd'hui, par exemple, j'aime bien cette formule qui n'est pas de moi, mais le vrai et le faux ont la même valeur. Moi, je n'ai pas connu ça. Le vrai, c'était le vrai. Le faux, c'était le faux. Aujourd'hui, on met les deux sur le même plan et on leur donne surtout la même valeur. Donc, ça devient très dangereux. Et encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit au départ. On a une courbe de mortalité qui augmente parce qu'on ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux et qu'on leur donne la même importance. Le lien que fait la littératie, il est donc valable au-delà de la santé.
Alors là, on parle de ça du côté plutôt des citoyens et des patients. Il y a aussi le risque de faire porter toute la responsabilité sur eux. Quels sont maintenant les freins aussi du côté des professionnels de santé ?
Et là, on touche effectivement, vous avez parfaitement raison de le reporter sur le... On était en train de passer à côté. En plus, je suis là pour ça, puisque je suis le pro de santé autour de cette table. C'est considérable aussi l'enjeu qu'il y a derrière. Je vais lâcher le mot tout de suite. On est sur un patriarcat médical qui est encore en vigueur, qui a encore une forte présence pour différentes raisons. Ça mériterait de se pencher sur le sujet. D'autres l'ont fait. Le patriarcat médical, c'est garder la main, c'est garder une sorte de pouvoir et de contrôle sur des connaissances et de se servir des connaissances pour garder une certaine forme de pouvoir. Je ne m'étendrai pas plus, mais disons que on doit s'éloigner de ce modèle-là pour justement rentrer en littératie. Et c'est un travail qui est quand même très important, qui va toucher la formation initiale. Encore une fois, on va faire le lien avec l'éducation thérapeutique où les thérapeutes, enfin les pros de santé qui sont dans l'éducation thérapeutique savent qu'il faut utiliser un vocabulaire simple, qu'il faut s'assurer que, Célia l'a dit tout à l'heure, l'entretien motivationnel, c'est ça, c'est-à-dire s'assurer que l'information a été reçue, d'essayer de savoir comment l'information a été reçue, de faire reformuler le patient, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a retenu. Je le vois dans le cabinet où j'exerce, j'ai installé un tableau avec un feutre Velleda et que j'utilise à la fois pour le patient qui peut dessiner sur le tableau et moi je dessine aussi sur le tableau un schéma de raisonnement. Même je l'interroge et je lui demande de m'expliquer ce qu'il a entendu. Donc on fait des allers-retours prof-élève. Je ne suis pas toujours le prof. Je me positionne en tant qu'élève où le patient m'explique ce qu'il a compris. Donc ça prend du temps. Ça prend énormément de temps.
Est-ce que les professionnels de santé ont ce temps?
Mais le gain est énorme. Le gain derrière est énorme et on gagne du temps. On réduit le temps d'exposition aux soins et on fait des sorties de soins beaucoup plus rapides quand le patient a compris. Ça, moi, je l'ai mesuré depuis très longtemps. Nous, en kinésithérapie, c'est un peu notre travail aussi. Comme on voit les patients régulièrement, on s'assure aussi qu'ils évoluent physiquement, mais qu'ils évoluent mentalement dans leur façon de voir les choses. Donc, au niveau pro de santé, pour répondre à la question, le travail qui nous attend est aussi très important et va essentiellement se focaliser sur voir le patient autrement, le penser autrement, s'adresser à lui autrement. Donc ça passera par la formation initiale, entre autres.
Dans l'idéal, ce serait dans la formation initiale.
Oui, et ce serait accepter de passer un peu plus de temps avec son ou sa patiente pour s'assurer que la personne a bien compris sa pathologie, a bien compris la prescription, tout ce qui est hygiène de vie et comportement individuel qu'elle peut avoir à côté, les autres professionnels de santé qu'elle peut solliciter en parallèle de la consultation du jour J, pour ne pas revenir dans 2 semaines et ainsi décharger les cabinets. C'est aussi rendre la consultation plus efficace et plus efficiente et l'optimiser, quoi. Si, j'aime pas trop ce terme, mais il y a un peu cette idée-là parce qu'on sait, comme Jean-Christophe l'a dit, les personnes qui ont un faible niveau de littératie fréquentent plus souvent les cabinets médicaux, participent moins aux campagnes de prévention, se rappellent pas des messages qui leur sont donnés. Hein. Il faut rappeler que quand même, quand on sort d'une consultation dans un cabinet médical, on a oublié entre 40 à 80% de ce qui nous a été dit. Donc c'est sûr qu'après, il faut revenir 3 fois derrière. S'il y a trop d'infos, si elle est trop complexe, si elle n'est pas vulgarisée et rendue lisible, compréhensible, ben forcément, on revient parce que le système humain est complexe.
Et donc, les solutions, selon ce que vous dites, viennent plutôt d'actions individuelles, que ce soit du patient avec un esprit critique ou, je résume peut-être un peu maladroitement, mais du patient donc, avec plus d'esprit critique et donc de s'intéresser à ces questions et en même temps, le professionnel de santé, par lui-même, d'essayer de vulgariser, de prendre plus de temps.
Oui, après... À la CPTS, on essaie de mettre le pied à l'étrier à ce sujet et de faire mettre le pied à l'étrier aussi aux professionnels de santé. Ça fonctionne à l'échelle individuelle, mais aussi collective dans un cabinet de santé où il y a plusieurs professionnels de santé ou à l'échelle d'une structure, d'un établissement où tout ce qui est programme d'éducation thérapeutique du patient, c'est pluridisciplinaire, donc... Ça peut aussi faire comme ça un effet boule de neige. À la CPTS, on a aussi une accompagnatrice en santé qui est vraiment la personne qui permet à la population qui va la consulter. Donc en fait, elle les accompagne dans toutes leurs démarches administratives ou numériques liées à la santé. Il faut savoir que quand même, il y a 72% des adultes qui ont des difficultés à utiliser les outils numériques en santé. Cette accompagnatrice en santé, c'est vraiment un outil qui décrypte le système de santé et qui le rend accessible et compréhensible aux personnes qui prennent rendez-vous avec elle dans les France Services pour augmenter leur niveau en littératie et ensuite être plus autonome. Ça rebondit sur la notion d'autonomie évoquée plus tôt.
Est-ce que ça, c'est pas le travail aussi des assistants sociaux ?
Eh ouais, il y a un gros sujet là-dessus. En France, globalement, on fonctionne beaucoup par silos. Donc, il y a tout ce que c'est le secteur social et le secteur médical, sanitaire. Et effectivement, il faudrait croiser ses compétences, travailler main dans la main pour, encore une fois, rendre plus efficaces toutes les actions qu'on mène les uns les autres auprès de la population. Et que ce soit complémentaire, en fait.
Donc c'est un axe plutôt de développement de...
Oui, un axe de développement, mais qui se fait à l'échelle macro, c'est politique.
Et vous, donc au niveau local, avec la CPTS, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ont été mises en œuvre ou qui sont envisagées aujourd'hui ?
On essaie d'insuffler ces notions-là via des rencontres, via l'infolettre, via le Facebook, après... Moi, je vais me former à ce sujet pour aussi pouvoir être plus en capacité de proposer des choses aux professionnels de santé du territoire.
Donc, c'est-à-dire être formé à des outils pour améliorer les connaissances ou aider les professionnels.
J'espère, oui.
D'accord.
Moi, l'idée, c'est d'outiller au maximum les professionnels de santé, leur prémâcher le travail, leur faciliter, les orienter sur les bonnes sources qui gagnent du temps, en fait. Je suis un peu comme un filtre, quoi, pour ensuite s'améliorer dans leur pratique au jour le jour.
Oui, je rajouterais qu'à la CPTS, c'est une communauté professionnelle, ce sont les pros de santé de ville qui sont rassemblés autour de projets de santé, de prévention et de diffusion d'informations. Donc globalement, notre mission, si on la prend d'une manière générale, c'est de l'information. C'est de l'information en santé pour les professionnels de santé. Et Célia, la chargée de mission, qui diversifie ses moyens d'information, qui répète ses informations, au final, on accède au niveau supérieur, c'est-à-dire que nous devenons formateurs. Nous sommes formation, nous sommes diffuseurs de formation auprès des pros de santé pour améliorer leurs pratiques de soins. Donc la CPTS, pour le dire simplement, puis ça peut paraître un peu curieux, mais c'est dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. La CPTS est formatrice auprès des pros de santé sur différents aspects, dont la littératie, dont les systèmes de prévention, les bonnes pratiques médicales. Nous sommes un outil de formateur, oui, on peut le dire comme ça.
Et pour finir cette émission, une suite des rendez-vous sur cette question de littératie à venir ?
Au fil de l'eau. Au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous allons avoir cette notion de littératie que nous allons mettre partout, dans toutes nos interventions. Nous allons coloriser, mettre cette couleur-là dans toutes nos interventions, où nous allons rappeler ces grands principes, ces positionnements que les pros de santé doivent avoir, puisque nous avons accès aux pros de santé, c'est notre première mission. Et pour les patients, ça se fera par l'intermédiaire des pros de santé que nous aurons informés, et il y aura certainement, alors ça sera à nous de le créer aussi, de le provoquer, de le fabriquer, donc des rencontres. Quand nous intervenons justement auprès des patients, nous les informerons qu'il y a cette idée. Toute première phrase de Cilla tout à l'heure, ça a été de rappeler cette tirade de Molière, mais on en fait tous sans le savoir. Mais le fait de prendre conscience de l'existence du phénomène, c'est déjà un pas énorme. Et on le voit auprès des pros de santé, quand on leur dit que ça existe, ils mettent un pied dedans beaucoup plus facilement.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a une information, quelque chose que vous voudriez pour compléter et pour finir cette émission ?
La culture de santé.
Un nouveau concept.
La culture en général. La culture en général, c'est un. Je suis sûr que dans cette radio, on en parle souvent. Vous l'évoquez, mais la culture, c'est vraiment important. Je parle de la culture, le théâtre, la musique et tout le reste. La culture en général, c'est un socle social. Ça fonde la société, c'est très important. Les écoles, les collèges, les lycées l'ont bien compris et axent pas mal l'enseignement là-dessus. La culture, c'est vraiment ce qui fonde la société. La culture de santé, les enjeux sont différents, mais c'est à peu près la même chose. C'est important de connaître la santé, comment elle se fabrique, comment elle se construit. Comment se fabrique la science médicale, comment elle se fabrique. Tous les citoyens pensent savoir, très peu en fait. Si on les interroge, pratiquement personne ne saura me définir, je mets au défi les auditeurs, mais ce que c'est vraiment la science. Par contre, tous les auditeurs sauront me parler de science, mais personne ne connaîtra réellement comment elle se fabrique. C'est la même chose pour la culture de santé, la culture médicale. Le grand public ne sait pas comment elle se fabrique et l'intérêt de la littératie, ça serait de mieux comprendre ça au niveau culturel. Donc là, on a parlé technique, on a parlé maladie. Moi, le message à sortir, c'est intéressez-vous à la culture en général et la culture de santé donc en particulier.
Merci Célia Grimal et Jean-Christophe Villiot d'Angers. On vous retrouve dans le prochain Onde de Santé en mai pour parler des cancers. Merci.
Merci beaucoup.
Onde de Santé, les projets santé du Nord des Hautes-Alpes.